Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc chers conférenciers, bienvenue dans ce temple maçonnique d'Épinal, lieu où se réunissent donc maçons et maçonnes, deux soirées par mois en général, pour se consacrer donc au travail sur des sujets peut-être philosophiques, symboliques ou sociétaux, selon une méthode et un rituel qui leur est propre, méthode que nous approcherons, on se peut, donc lors du débat, si je vous demandais de lever la main pour demander la parole, qui vous sera généreusement octroyée, et je vais vous demander simplement de vous lever donc, pour vous manifester. Ce midi, comme nous le disons donc, au moment d'ouvrir nos travaux, nous allons vivre la dernière étape des imaginales maçonniques et ésotériques 2015. Une troisième édition du genre qui vous a vu toujours plus nombreux donc à rejoindre ce temple pour une conférence ou un conférencier, certains pour la première fois, d'autres déjà bien habitués des lieux, mais tous avec ce désir de vous imprégner de ces lieux, souvent imaginés, fantasmés parfois, mais que nous avons souhaité vous faire découvrir pour tordre le cou à certains préjugés ou fausses idées véhiculées à notre propos. Les francs-maçons au cœur de la cité qui ouvrent leurs portes pour inviter leurs concitoyens au travers d'un cycle de conférences à mieux appréhender nos préoccupations face au monde dans lequel nous vivons tous, à mieux partager avec vous nos rêves, nos utopies. Voilà quel était notre but premier en préparant le programme des IME 2015. Notre président Jacques Orléfis, l'ensemble des facs qui ont œuvré autour de lui, auront reçu leur salaire au terme de cette 12e conférence et d'ores et déjà, ils vous manifestent leur plus grande reconnaissance car vous aurez été, avec celles et ceux qui vous ont précédés, vous aurez été par votre présence, votre qualité d'écoute et la pertinence de vos interventions, les artisans de cette réussite. Après le réenchantement du monde, la face obscure de l'humanité, c'est sous le signe de l'utopie que nous avons placé cette troisième journée de conférence, aux lumières des utopies plus précisément. Telle illustrée ce matin par Claude Vautrin à travers le prisme de son dernier ouvrage, Grand reporter de l'autre côté, puis par Céline Brion-Porté, Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, qui vous ont entretenu de la modernité de l'utopie maçonnique, que vous pouvez retrouver donc en découvrant leur ouvrage Utopie maçonnique, améliorer l'homme et la société, récompensé par le deuxième prix Calais Roussel, prix qui vient de leur être remis donc, en ce temple à 14h. Et enfin, donc, nos derniers conférenciers là, qui viennent à peine de quitter le temple et qui vous ont entretenu donc, du beau temps sur les utopies. Si l'écrivain anglais Thomas More donc, est considéré comme le père de l'utopie, c'est chez Édouard Herriot que j'ai trouvé cette citation. Une utopie est une réalité en puissance. Utopie, donc, mot forgé du grec, donc, par Thomas More, signifiant en aucun lieu, est une représentation, donc, une réalité idéale et sans défaut. Donc, par un régime politique idéal, une société parfaite, une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie, donc, souvent écrite, pour dénoncer les injustices ou dérives de leur temps. Une utopie peut désigner également une réalité difficilement admissible, en ce sens qualifier quelque chose d'utopique consiste à le disqualifier et à le considérer comme irrationnel. Donc cette polysémie qui fait varier la définition du terme entre texte littéraire à vocation politique et rêve irréalisable atteste de la lutte entre deux croyances, l'une en la possibilité de réfléchir sur le réel par le biais de la fiction, l'autre sur la dissociation radicale du rêve et de l'acte, de l'idéal et du réel. Ainsi planté le décor, il nous reste à convoquer les utopies au pays des sciences, le thème de cette conférence, et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir deux passionnés du genre. J'ai nommé donc Didier Lezor, vous aurez peut-être déjà eu le plaisir d'entendre, et Jean-Michel Truong, donc, à mes côtés. Didier Dezor, donc, 62 ans, professeur des universités, qui enseigne les neurosciences du comportement à la faculté des sciences universitaires, Henri Poincaré, donc dans les parcours de biologie. Il enseigne également à l'université Nancy 2 dans les parcours de psychologie et de sciences cognitives. Donc, un certain nombre de publications, un travail donc sur les rats qui a été le sujet de sa dernière conférence, Les rats nous frères, donc ici, un parallèle, donc une mise en parallèle avec ce que l'on peut retrouver donc, dans les sociétés, dans les groupes, dans les rôles de dominant-dominé, tout ce qu'il a pu nous apporter donc, au terme de sa conférence. Jean-Michel Plouong, si je me trompe, né il y a 65 ans à Vasselonne, en Alsace.
Absolument.
Donc, Jean-Michel Truong nous avait fait des études de psychologie et de philosophie à l'université Louis Pasteur, à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Ancien enseignant, chercheur au groupe d'études et de recherches sur la science de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, vous êtes cogniticien, expert en intelligence artificielle. Fondateur avec Alain Bonnet Jean-Paul Hatton de Cognitech, première société européenne spécialisée en intelligence artificielle. Vous avez été consultant en innovation et transfert de technologies. Vous avez enseigné jusqu'en juin 2007 à l'École Centrale Paris. Et en 83, vous déposez le mot cognitique à l'INPI. Vous définissez le terme cognitique comme discipline scientifique et pratique technique, branche de l'informatique qui a pour objet l'acquisition et la représentation formelle des connaissances et des modes de raisonnement en vue de leur simulation à l'aide d'ordinateurs. Vous décrivez ce métier de spécialiste de la cognitique pour la première fois en 1988 dans un article du Monde Informatique. Vous travaillez en Chine depuis 1991, vous conseillez des entreprises européennes de haute technologie dans la télécommunication et l'aérospatiale, donc des entreprises désireuses d'investir dans ce pays, et en marge de votre activité d'expertise et de conseil, vous êtes romancier et essayiste. À cette occasion, donc, je vous ai découvert alors que j'étais administrateur du musée de retraite à travers la lecture de votre roman Eternity Express, dont nous n'avons pas forcément suivi l'application pour la bonne gestion de notre musée. Pour les amateurs, je vous conseille vraiment cette chaîne. Je ne vais pas vous faire la longue liste des ouvrages de Jean-Michel Truong, mais je ne peux passer sous silence, malgré tout, le successeur de Pierre, totalement inhumaine, et puis, donc, cet essai de réponse à la crise actuelle, à la crise de citoyenneté, donc, reprendre, ni sans ni dette, ou vous apporter, donc, une tentative de réponse à cette difficile situation, donc transformant le modèle en dot. Je vous invite à faire vos propres recherches sur Internet pour mieux appréhender cet ouvrage de Jean-Michel Truong et de le lire, bien entendu. Raymond Rousson a intitulé son livre « Lui, science, technique et utopie, de point du paradis à l'enfer ». Tout au long de son histoire, l'utopie a tracé la voie vers une société juste, assurant le bonheur de tous. Le XIXe siècle a fait les sciences et les techniques les bases de son culte quasi religieux du progrès, censé créer un monde de justice, d'égalité et de bonheur, mais progrès technique et progrès moral n'ont pas marché de pair, et ce qui devait affranchir a instauré une nouvelle servitude. Le XXe siècle, nourri de tragiques expériences, s'est imprégné d'un pessimisme croissant à l'égard des sciences et des techniques, dont on craint désormais qu'elles dévastent le monde au lieu de le sauver. D'où l'appel le plus pressant des utopistes à une contre-culture seule capable d'enrayer la marche, la marche vers un totalitarisme technocratique qui succéderait au totalitarisme politique de naguère. J'invite nos deux conférenciers à nous faire partager leur avis sur le sujet. Donc, pour vous, Didier et Jean-Michel, les utopies peuvent-elles survivre à l'épreuve des sciences? Les utopies complètent-elles les sciences? Les sciences peuvent-elles être au service des utopies? Ou, à l'inverse, y aurait-il un antagonisme entre sciences et utopies? Et j'ouvrirai donc cette communication par ces paroles de Victor Hugo, la volonté aboutit à un ajournement, l'utopie, la science aboutit à un doute, l'hypothèse. Chacun de sort. Si vous voulez, la parole vous est donnée.
Merci, Monsieur le Président. Bienvenue à cette dernière conférence, qui, il faut quand même également le dire, a été un petit peu improvisée. Hein, alors, mais c'est ça qui va lui donner sa vie. Hein, voilà. Alors, si vous voulez, au nom des utopies, alors, toute la journée a été consacrée aux utopies. Alors, je ne sais pas quels sont ceux parmi vous qui ont déjà assisté à certains exposés. On est obligé de considérer que vous êtes à peu près neuf dans cette affaire-là, hein, sinon on ne peut pas faire des subdivisions à la vie. Les utopies ont été, on pourrait presque dire utopie, que de crimes on a commis en ton nom, hein, c'est clair, mais en même temps que de bonheur, que de joie, que de progrès ont également été accomplis en ton nom. C'est le président tout à l'heure a insisté sur cette polysémie, hein, du terme utopie. Ça peut aller même, comme il l'a dit, jusqu'à aller qualifier à être péjoratif. Hein, lorsque on entend les débats des hommes politiques assez souvent, lorsque un présente une théorie souvent assez généreuse, etc., il est brutalement ramené à la réalité par son protagoniste, qui est mon cher ami. Mais c'est un utopiste, alors là, c'est hein, boum, hein, c'est pas bon du tout, hein, mais, ce genre de remarque. A priori, utopie et démarche scientifique, ça pourrait sembler être opposé. Hein. Ah, je dis bien a priori, hein, mais pourquoi est-ce que ça pourrait sembler être opposé? Ben, tout simplement parce que l'utopie est essentiellement, toujours a priori, hein, une œuvre d'imagination, une projection dans le futur. Voilà. Alors que la science, c'est du lourd, ça examine, ça analyse, ça réfléchit, etc. C'est du rationnel. Donc imagination d'un côté, rationnel de l'autre. Déjà Pascal faisait remarquer que ça coexistait assez mal, hein, ce genre de choses. On va même dire à l'extrême, hein, est-ce que l'utopie est soluble dans le progrès scientifique? On pourrait poser cette question comme ça. Certains d'ailleurs supportent cette hypothèse. D'un autre côté, les utopistes ne datent pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as cité Thomas More en 1516, mais c'est lui qui a fondé le terme d'utopie. Hein. Mais des utopistes, il y en a eu bien avant. Hein. Platon était Homère dans l'Odyssée, fait voyager Ulysse dans des pays merveilleux qui sont presque des visions utopistes de ce que pourrait être le monde. On va trouver ça tout le long de l'histoire. Hein. C'est normal. Quelque part, c'est normal. Le monde n'est pas parfait. Certains sont très sensibles à des aspects de non-perfection du monde, des choses qui ne vont pas bien, qu'on pourrait peut-être améliorer. Et l'imagination aidant, certains vont créer un monde dans lequel ces problèmes-là sont éradiqués, un monde parfait, merveilleux, tout va bien. Hein. Et d'autres vont réagir autrement pour empêcher la survenue de l'enfer. À cause de ces dysfonctionnements qu'ils perçoivent, ils vont créer un monde, également, dans lequel ce défaut a pris le dessus. Un défaut, par exemple, un socialisme poussé à l'extrême, dérivant un communisme, puis un totalitarisme complet, comme on va le trouver dans l'œuvre d'Orwell dans 1984. Là, on est dans la dystopie. Et dans les deux cas, ou la contre-utopie, hein. Dans les deux cas, la démarche est la même. Et l'intention qui est derrière est probablement la même aussi. Pour celui qui construit l'utopie, il dit à ses lecteurs qui vivent toujours dans le présent, regardez, ça c'est bien, imaginez un monde si ça se généralisait. Hein. Alors que celui qui va créer une contre-utopie dit à ses lecteurs qui vivent dans le présent, il y a eu cette petite chose, cette loi sur les libertés individuelles là, qui va bientôt passer. Vous voyez, généralisons-la, et on arrive à ceci, c'est Orwell pour 1984. Vous avez vu les manipulations génétiques, la différenciation des êtres humains en différentes castes, etc. Poussons ça à fond, dès le stade embryonnaire, décidons s'il appartiendra à la caste des dominants ou à la caste des dominés, et vous êtes dans le meilleur des mondes, d'Huxley. Et par le retour, le lecteur est invité à porter son attention sur ce léger dysfonctionnement ou cette potentialité de dysfonctionnement, et donc à réagir pour éviter que cet enfer survienne. Hein. Alors, utopie, tout baigne. Dystopie contre utopie, c'est l'enfer. Hein. Depuis tant que ça dure, on pourrait très bien dire, mais on a du recul maintenant. On a du recul pour tester tout ce qui a pu être imaginé comme utopie. Hein. Mais on s'aperçoit que, et le tester à la lumière du raisonnement scientifique. Alors déjà, le raisonnement scientifique, c'est pas si ancien que ça. Hein. Le mode de raisonnement qu'on utilise maintenant, c'est même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Puis deuxièmement, c'est un processus qui n'arrête pas de fonctionner, ça foisonne, comme on dit dans l'industrie agroalimentaire, où il suffit de se promener sous le chapiteau pour voir le nombre invraisemblable, incroyable de production qui vient. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser la science un petit peu comme une pierre de touche, hein, pour juger de la valeur de la vie ? C'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Parce que la relation science-utopie est loin d'être aussi simple. Est loin d'être aussi simple. Il y a des utopies qui ont déçu. Et quand je dis déçu, je suis gentil. Hein. L'utopie nationale-socialiste allemande, par exemple, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été une réussite. Hein. Bien. Mais la science n'est pas une petite voie blanche non plus dans cette affaire-là. Hein. Tout le XXe siècle, c'est l'histoire des applications perverses de la science dans le but de la destruction du genre humain. Les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, la rationalisation de l'éradication dans les camps de concentration, rationalisation scientifique, attention, hein, l'utilisation de l'atome sur Hiroshima, Nagasaki, etc., et j'en passe et des meilleurs, ce qui, même à la fin, a fragilisé les bases du progrès scientifique. Beaucoup de gens ne croient plus dans le progrès scientifique et se réfugient à leur tour dans des utopies éventuelles, et le cycle continue comme ceci. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dans la suite, il est très probable que le sens du mot utopie, on va le faire varier. Au sens strict, c'est cette société idéale qui a été décrite. Certes, c'est un genre littéraire en même temps, hein. Mais beaucoup d'idéologies, en fait, contiennent en germe des utopies ou des dystopies. Mais on va dire des utopies parce que celui qui a l'idéologie, c'est pour lui. Hein, donc, il trouve que c'est bien. Donc, à certains moments, je pense que vous pourrez remarquer que la frontière entre utopie et idéologie est assez floue. On la rend assez floue. On le sait. Voilà. Bon, Jean-Michel, je passe ta parole, je peux encore continuer, numéro 2, hein, c'est un problème.
Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, je vais essayer de proposer quelques évidences, mais c'est souvent les évidences qui sont difficiles à mettre en évidence, tellement elles sont évidentes. La première, c'est que nous vivons déjà sous l'empire d'une utopie. Nous sommes dans une utopie. Nous sommes comme le poisson qui est dans l'eau, qui ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau, dans un milieu, et qu'il existe d'autres milieux dans lesquels d'autres animaux vivent et arrivent quant à eux à prospérer. D'accord ? Donc, premièrement, nous sommes, sans nous en rendre compte, sous l'empire d'une utopie qui est, pour la nommer de manière un peu caricaturale, c'est l'utopie libérale qui organise notre société. Elle a longtemps été contrée, on l'a rappelé, par l'utopie socialiste. Il y a eu de grands mouvements au siècle dernier qui se sont soldés par la victoire quasi universelle. Je peux en témoigner, je vis depuis 25 et travaille depuis 25 ans en Chine. Je peux vous dire que en Chine, on a renoncé depuis déjà longtemps à l'idéologie, à l'utopie socialiste, et ce qui est en train de se mettre en place, comme partout, c'est l'utopie libérale. Donc, premièrement, ne pas oublier ça. Il y a une utopie dominante, c'est ça que je voudrais, le point que je voudrais faire. Il y a l'utopie dominante qui n'est pas remise en question parce qu'elle est vécue comme une évidence par chacun d'entre nous. Après tout, on ne peut pas imaginer de sortir, le poisson ne peut pas imaginer de vivre ailleurs que dans son bocal, d'accord, dans son milieu à queue. Il y a une utopie dominante et il y a eu, ou il pourrait y avoir, des utopies alternatives. Mais l'évidence même de l'utopie dominante fait que personne ne peut plus envisager seulement de les concevoir. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ma question, c'est justement, c'est sous le soleil de l'utopie dominante, appelons-la l'utopie avec un grand T, d'accord, est-il encore possible, sous l'empire de l'utopie dominante, de qu'il y ait place pour d'autres utopies, et à quelles conditions? Et puisqu'il est question de science, je poserai la même question à propos de la science. Sous le soleil de l'utopie dominante, y a-t-il encore une place pour la science? Alors, je voudrais d'abord répondre peut-être à cette dernière question par un exemple tout simple. On a bien voulu rappeler que dans une vie antérieure, j'avais été très actif dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très, dont il est intéressant de suivre le développement dans le historique, hein, dans le temps, parce que c'est une discipline scientifique relativement nouvelle. Hein, en gros, c'est Alan Turing et quelques autres, von Neumann, qui, au courant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et dans la décennie qui a suivi, ont posé les fondements, avec quelques autres, Dreyfus et compagnie, de ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Et cette science a connu, non pas un développement comme on pourrait imaginer, vous savez, un développement, comme disent les mathématiciens, croissant monotone. Monotone, ça veut dire on ne revient jamais en arrière. Hein, le progrès qu'on a fait n'est jamais remis en question. Plus le temps avance, plus on accumule les progrès et ça n'est jamais remis en question. Contrairement à d'autres développements, hein, on le sait bien dans la vie réelle, on fait des progrès et puis il y a des régressions. D'accord ? On croit beaucoup que la science fonctionne comme ça, mais justement l'histoire de l'IA montre que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. J'ai appartenu à une première phase glorieuse de l'IA dans les années 80, où, grâce justement au conflit qui existait encore à l'époque entre deux idéologies, deux utopies, l'utopie libérale, dont Reagan était à l'époque le porte-drapeau des Thatcher ici chez nous en Europe, et l'utopie communiste dont les malheureux, j'ai oublié leur nom tellement ils sont les malheureux soviétiques étaient les porte-drapeaux, sous l'effet de ce conflit, Reagan a décidé, comme ça, sur un claquement de doigts, qu'il fallait que la communauté scientifique internationale consacre un maximum de moyens à contrer la menace soviétique et que pour cela, je fais court, il n'y avait qu'une seule façon, c'était d'investir à fond dans l'intelligence artificielle pour rendre les missiles plus précis, Bon, il y avait peut-être raison, d'accord ? On a appelé ça la guerre des étoiles. Mais c'est lui qui était un acteur, comme vous savez, avait le sens de la formule. Donc pour lui, c'était la guerre des étoiles, mais ça s'est traduit par un afflux massif de fonds publics, essentiellement militaires, vers les sociétés comme Cognitech. Nous étions deux à l'époque, hein, donc, Technoledge aux États-Unis, Cognitech en Europe. Nous avons, grâce à cela, prospéré. Et puis, il y a eu l'effondrement, comme vous savez, de l'idéologie de l'utopie soviétique, et la menace n'existait plus. Et d'un seul coup, quelqu'un a claqué dans les doigts et a décidé que cet argent-là serait beaucoup mieux utilisé. Et c'est là qu'a gonflé la nouvelle utopie, celle d'Internet. Et les fonds qui s'étaient par milliards investis dans l'utopie, dans la science intelligence artificielle, dans cette province de la science qui était l'intelligence artificielle, se sont déplacés vers les télécoms, etc., etc., en l'espace de quelques années. Ce que je veux dire, c'est que la science est sous le contrôle des caprices des utopies. Et aujourd'hui, comme vous savez, par un heureux retour des choses, qui s'explique parfaitement, hein, après la bulle des subprimes, des dizaines de milliers de milliards de dollars et d'euros attendent à s'investir, cherchent désespérément à s'investir dans quelque chose d'aussi prometteur pour la croissance que l'étaient les subprimes, qu'est-ce qu'on fait ? On lance une nouvelle utopie qui est l'utopie de l'homme immortel, de l'homme augmenté par l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté par la technologie. Et d'un seul coup, c'est comme, vous savez, les marées, en fait. Hein, la marée avait inondé, dans les années 80, les plages riantes de l'intelligence artificielle, et de Cognitech et de Technology et quelques autres. Les laboratoires de recherche, bien sûr, ont été inondés d'argent. Et puis, la marée s'est retirée. Et voilà que la marée revient, 30 ans après, sur les mêmes sujets, pour à nouveau irriguer les entreprises du domaine. Donc, la science est sous le contrôle de l'utopie dominante. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Bien sûr, le chercheur essaye de faire ce qu'il veut, mais il ne peut faire ce qu'il veut que s'il a les ressources, si on met à sa disposition des ressources en quantité suffisante. Je voulais attirer votre attention sur ce point. La seconde, c'est bon. L'utopie... peut-on encore concevoir des utopies sous le soleil de l'utopie avec un grand U? Peut-on concevoir des utopies avec un petit U sous le soleil de l'utopie dominante? J'ai tendance à dire non. C'est-à-dire que l'utopie dominante a comme effet, peut-être comme méthode, je ne veux pas dire comme méthode parce que je supposerais qu'il y a une intention, hein, qu'il y a un complot quelque part, pour que ça, mais en tout cas qu'elle a comme effet de détourner l'attention de ceux qui pourraient porter des utopies concurrentes de cet objectif. D'accord ? Comment dirais-je ? Quand vous avez, comme en France, je ne sais pas si vous avez lu cette étude de l'INSEE, pauvreté persistante et pauvreté transitoire. Elle est parue il y a 3 ans. Personne n'en a parlé, je vous en parle. Qui disait qu'il y a en France, en plus des 4 millions de nos concitoyens, hommes, femmes et enfants, vivant en dessous du seuil de pauvreté, 14 millions qui ont passé au moins 6 mois en dessous du seuil de pauvreté au cours des 3 années précédentes. C'est-à-dire que, voilà, hein, vous imaginez les cachalots, les baleines, elles viennent souffler en surface une fois tous les 6 mois, prendre un peu d'air, et hop, elles replongent sous le seuil de pauvreté. Et elles remontent. Et nous avons comme ça, donc, au total, 18 millions de personnes qui vivent dans les franges du seuil de pauvreté. 18 millions, c'est un tiers de la population, en gros. Hein? Puisque dans les 14 millions en question, il ne compte que les personnes de 16 à 65 ans, c'est-à-dire les personnes en âge de travailler. Pas les gosses de ces personnes, mais manifestement, si on compte les gosses de ces personnes, on a un tiers de la population qui vit là. Je dis, il est impossible à un peuple qui a les pieds pris dans la glu de la misère, d'imaginer des utopies. L'utopie dominante, libérale, a, comment dirais-je, se défend, c'est comme un mécanisme de défense. Hein, son système immunitaire à l'utopie dominante fait que fonctionne en interdisant d'imaginer la possibilité d'utopie concurrente. Voilà. Donc, je dirais, aussi bien du point de vue de la science que du point de vue de l'utopie, on est assez mal barré. Parce que une utopie bien faite comme l'utopie libérale, dont nous autres ici, j'en suis sûr, bénéficions, en tout cas moi, je sais que j'en bénéficie depuis très longtemps, est très difficile à déboulonner. À cause de ces mécanismes de défense. Elle se défend, elle défend son monopole. Ça n'est pas simplement l'affaire d'un Thomas More qui, dans un coin, en gros, si vous voulez, pour que une utopie, pour que les des utopies puissent prospérer, elles ne peuvent le faire que dans un domaine, que dans une situation, dans un environnement où aucune utopie n'est dominante. Elles doivent se faire concurrence. C'est-à-dire que, en gros, l'utopie doit rester utopie. Dès lors que elle doit rester réalité en gésine, réalité en gestation. Mais dès lors qu'elle devient réalité, elle fait le vide autour d'elle. Et nous sommes dans une phase, actuellement, je ne sais pas comment elle finira, où une utopie a fait le vide autour d'elle et s'arrange pour que aussi bien la science pourrait être une de ses forces, hein, qui brise le couvercle mental, cognitif, aussi bien la science que ceux qui, les intellectuels, etc., ne peuvent plus penser d'autres utopies possibles. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.
Pour le plaisir de la discussion, je vais d'abord soutenir son point de vue, ensuite aller contre.
Voilà, c'est une bonne méthode.
Ça va pas. Ça va pas être bon. Alors, effectivement, bon, il y a plusieurs utopies. En voilà une, par exemple, la démarche scientifique. C'est quelque chose d'utopiste. Si elle était elle est censée être complètement rationnelle. C'est ce qu'on apprend dans les livres, c'est ce qu'on essaie d'enseigner aux étudiants qui, généralement, mordent pas bien. Et je sais pourquoi ils mordent pas bien. Parce que ça va à l'encontre de presque assez souvent de la vie de tous les jours. Hein. Vous savez, cette démarche hypothèse, expérimentation, affirmation, confirmation d'hypothèse, un peu des calculs statistiques, etc. Bon, hein, voilà. Oui, bon, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Mais c'est une utopie. Et alors, le scientifique qui est complètement rationnel et qui va là où il sent qu'il y a encore de la terre à défricher, etc. Mais c'est faux. C'est faux. Qui finance la recherche? C'est soit le gouvernement, soit le privé. Vous avez, dans les deux cas, vous avez affaire à la même idéologie qui est au service d'une utopie. L'idéologie, l'utopie libérale, c'est la régulation totale et parfaite, rappelez-vous, la main invisible du marché d'Adam Smith, hein, qui vous assure la perfection dans les rapports sociaux. C'est une utopie. Hein. Ça a donné, lors de son application, naissance à l'économie libérale, on va dire. Hein. Mais je vais en prendre deux autres exemples où une conception du monde vers laquelle on aimerait tendre détruit même la recherche scientifique, ou en tout cas peut l'handicaper. Mais je vais aller jusqu'à la destruction et son handicap total. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que la parousie ? La parousie, c'est le monde parfait qui s'établira lorsque Jésus reviendra triomphant sur terre. Si ça, c'est pas une utopie. Hein, d'accord ? Bien. L'application. N'oubliez pas que le monde a été créé en 6 jours, il y a 4000 ans. C'est écrit. Vous ne vous imaginez pas l'opiniâtreté qu'il a fallu aux géologues dans un premier temps pour se dire quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. La Terre est quand même plus vieille que 4000 ans. Et c'est basé sur des travaux de gens qui étudiaient la vitesse de sédimentation au fond de l'eau. Hein, quand ils ont eu terminé les mesures et qu'ils regardaient des grandes falaises calcaires, ils disent, c'est pas possible, ça ne peut pas être construit en 4000 ans. Alors on commence les mesures, etc. Au bout d'un moment, c'est devenu, c'est pas possible. La Terre doit. Et n'oubliez pas que Cuvier, qui était alors l'équivalent d'un Axel Kahn aujourd'hui, je dirais, dans la notoriété, les honneurs, etc., a été obligé publiquement de demander pardon à l'Église catholique parce qu'il avait dit, oh la Terre, moi, 75 000 ans, je dirais, à peu près. Non, 5 milliards d'années, quand même. Hein, bon. Et donc, la Terre est plus vieille qu'il n'y paraît. Immédiatement, les bataillons se mettent en marche. Deuxièmement, la vie n'a pas toujours été fixe, les théories fixistes, qui dit que si aujourd'hui il y a un papillon jaune, ben, il a été créé par Dieu depuis le premier jour et puis il est là depuis... Bon, d'accord ? Non, les espèces se transforment. Et enfin, il a fallu l'opiniâtreté de Darwin, excommunié plusieurs fois, procession évêque en tête devant sa maison, projection de Bénite sur sa maison, hein, vous imaginez le truc, pour qu'on commence à comprendre le mécanisme de l'évolution. Et c'est pas fini. Aux États-Unis vient s'ouvrir un espèce de Disneyland, mais c'est pas Disney, hein, pour les enfants, donc créationniste. Hein. À chaque fois, cette idéologie, cette conception du monde, etc., est venue tenter de bloquer les recherches scientifiques. Vous avez la même chose actuellement avec les recherches sur la fin de la vie et les débuts de la vie, avec la cellule souche, les embryons, etc. Deuxième, où ça peut être encore plus brutal, à la fin du 19, enfin, pendant le 20e siècle, s'est développé un type en Union soviétique, hein, qui s'appelle Lysenko. Au départ, c'était un technicien agricole, et il a eu quelques succès au départ, pour ça, ça ne faut pas le méconnaître, hein, qui l'ont rendu célèbre. Et pendant que lui travaillait en tant qu'ingénieur agronome dans sa patrie, la génétique mendélienne, hein, c'est-à-dire les bases vraies qu'on connaît actuellement de génétique, se sont développées. États-Unis, Angleterre, Europe, etc. L'Occident. Bien. Et lui était persuadé que ça ne marchait pas. Lui, on revenait à la marque pratiquement. On pouvait créer des nouvelles espèces rien qu'en transplantant du blé dans une tourbière, ça donnait une variété. Dans un sol silice, plein de silice, ça donnait un autre blé, etc. Ça ne marche pas, hein, on est d'accord. Mais lui a eu des résultats un peu truandés qui lui ont permis de dire que ça marchait. C'est devenu un héros. Il est devenu, à la fin, directeur de l'Académie des sciences, quand même. Hein. Naturellement, pendant ce temps-là, le monde entier rigolait. Quoi, hein. C'est pas possible. Mais c'était la bonne époque. Il est mort en 1976, Lysenko. Hein. À la fin, il était démis de ses fonctions, parce qu'on s'est quand même aperçu que la réalité était tout. Quoi. Mais n'empêche que, pendant un moment, ses opposants scientifiques sont morts au goulag. Autrement dit, il avait inventé ce qu'on appelait la science de classe. Il y avait la science prolétarienne, forcément juste, parce qu'elle était prolétarienne, et la science occidentale, dite science bourgeoise, qui était forcément fausse, puisque c'était la science bourgeoise. Seul, et si ce n'est pas une utopie, donnez-moi autre chose, le régime soviétique pouvait engendrer l'exactitude de la science. Vous voyez ? Et des gens sont morts à cause de ça, et là, l'utopie a littéralement cassé, en tout cas, a handicapé longtemps la recherche scientifique. Bien, ça c'est pour aller dans le sens de Jean-Michel. Maintenant, je vais défendre des points de vue opposés quand même, sinon c'est pas rigolo. Je pense que l'utopie peut être favorable à certains types de recherche scientifique et même engendrer certains progrès scientifiques, quitte à essayer de les récupérer après, naturellement. Hein. Attention, il faut voir aussi que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas monotone, c'est assez dialectique, et c'est croche-pied après croche-pied, je me relève et je te fais un croche-pied, c'est comme ça. Bon. Par exemple, actuellement, un certain nombre de recherches scientifiques, et le débat fait rage, hein, se pose la question, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique ? Est-ce que les réserves fossiles, on pourra encore les utiliser longtemps ? Alors, il suffit d'écouter, hein. Alors, d'un côté, vous avez Allègre, fort de sa corpulence, de son statut d'ancien ministre et de sa tentative de dégraisser le mammouth, puis une voix tonitruante, hein, il est quand même assez audible, on va dire, hein, qui dit « Moi, j'y crois pas. La Terre se réchauffe pas, point. » Non, c'est comme ça. Hein. Et vous avez les autres, alors, opiniâtrement, qui alignent les chiffres, etc. Bon, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, surtout quand on n'est pas vraiment dans la partie, semblerait quand même que ça ait tendance à se réchauffer et de façon durable. Bien. D'où une nouvelle utopie. À mon avis, c'est une utopie, puisque c'est une vision d'un monde qui serait meilleur que celui-là, hein, basée d'abord sur le développement durable, et deuxièmement, même sur la décroissance. partant du postulat que déjà le terme développement durable, c'est un oxymore. Un développement ne peut pas être durable éternellement, en tout cas. Sinon, ça ne va pas. On tend vers l'infini. Il y a très vite un problème quand même. Hein. Donc, c'est pas possible cette formule-là. Donc, à la limite, stop et peut-être même ralentissant. Bon. Le développement durable, l'économie des moyens en énergie stimule certainement la recherche sur les énergies renouvelables et donc la physique des matériaux et donc par exemple les panneaux photovoltaïques, etc. Jusqu'au jour, et on va certainement faire des découvertes scientifiques à ce moment-là, qui seront, ça sera du solide, ça sera de l'acquis, hein, d'accord ? Maintenant, est-ce que ça sera appliqué ou pas ? Là, l'utopie libérale qui est basée sur le court terme et même le très court terme va certainement tenter de freiner tout ça, c'est clair. Et si elle n'arrive pas à le freiner sous l'effet de l'opinion, parce qu'il faut quand même compter sur l'imprégnation progressive de l'opinion, à ce moment-là, tentera de récupérer l'affaire. Et c'est pas compliqué, on sait déjà qui achètera les sociétés qui utilisent ces choses-là, eh bien, ce sont les grosses sociétés actuellement qui utilisent l'énergie fossile, l'Arabie Saoudite, enfin bon, dans tous les pays. Voilà. Donc, là, c'est assez complexe. Hein. Les relations science-utopie sont... la science peut promouvoir l'utopie, peut détruire des utopies en montrant qu'elles sont fausses, l'utopie peut promouvoir la science, l'utopie peut détruire la science. Voilà.
Merci. Une réaction, Michel.
Nous passons à des.
C'est une bonne introduction à la problématique.
Donc, face à ce débat planté, donc à cette première partie de conclusion donc, des différents cas d'interaction entre utopie donc, et science, eh bien, si vous avez donc des interventions à faire, des remarques, des questions à poser, donc, dès que vous aurez demandé la parole, elle vous sera immédiatement accordée. Je vous demanderai simplement de vous lever pour intervenir. Donc, la parole circule.
Oui.
Bon. Je voudrais poser la question suivante au conférencier. D'ailleurs, moi, j'ai un certain âge. Au XXe siècle, il y a eu une utopie qui a été le mariage de la science. Et l'utopie, alors moi j'appelle ça l'utopie, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais quelque chose qui a tenu en haleine des générations d'humains, c'est l'homme sur la Lune. Et dans les utopies, ça, j'en entends jamais parler. Alors, première question, est-ce que vous considérez que c'est une utopie ? Et puis, deuxièmement, c'est une utopie qui a été réalisée, et maintenant, quid de cette utopie ?
Cyrano de Bergerac. Les aventures folles de l'homme sur la Lune, je l'ai même trouvé sous le chapiteau ce matin. Ça avait été écrit. Hein. Méliès avait également envoyé des hommes sur la Lune, enfin dans son décor en carton pâte. Hein. Maintenant, c'est réalisé. Qu'est-ce qu'on en fera ? C'est même plus sûr que le savoir qui a permis d'envoyer un homme vivant sur la Lune et de le faire revenir existe encore actuellement. Hein. Parce que les programmes s'étant arrêtés depuis très longtemps, les gens ayant envoyé le turnover des personnels, étant fait, les gens ayant vieilli, sont partis en retraite, sont morts, etc. Alors, j'ai lu quelque part que s'il fallait maintenant décider de renvoyer quelqu'un vivant et de le ramener vivant sur Terre, il faudrait presque tout recommencer à zéro. Bon, je ne sais pas si la réponse vous satisfait.
C'est une réponse.
C'est une réponse, je sais.
Est-ce que je peux apporter un complément ? Votre question illustre bien comment ça fonctionne, l'interaction extrêmement complexe qu'a décrite mon collègue entre science et utopie. C'est que la science, pour progresser, et je dis science au sens large, hein, pas au sens simplement le chercheur sur sa paillasse, mais tout le système scientifique a besoin d'utopie pour fonctionner. Ou plus exactement, il a besoin de raconter des histoires qui rendent l'objectif qu'elle poursuit désirable pour un grand nombre, et en particulier pour ceux qui détiennent les cordons de la bourse. D'accord ? Donc, chaque progrès scientifique a toujours correspondu a toujours été précédé par un récit, par alors appelons ça une utopie, hein, c'est-à-dire le tableau qui s'est répandu dans un très grand nombre de consciences, si possible dans les têtes sous les têtes couronnées, hein, de pays mirifiques, regorgeant de richesses, etc., de toutes sortes de bénéfices qu'on pouvait tirer d'une situation ou d'une autre, du fait de... Et ce sont ces utopies, entre guillemets, alors je viens de citer celle que vous... une autre utopie, mais qui n'a fait que de précéder que de quelques siècles, celle de la marche sur la Lune, c'est l'utopie de l'Amérique. D'accord ? Ou plus exactement de la Chine, hein, parce qu'on a découvert l'Amérique en croyant découvrir la Chine. Donc, la science a besoin de ces récits. Le problème, c'est quand ces récits sont contrôlés par ceux qui bénéficient de l'utopie dominante du moment. D'accord ? Comme actuellement, il est très difficile de proposer... l'exemple est très bon, celui du développement durable, des sources alternatives d'énergie, etc. Il est très difficile de proposer cette alternative et de la faire de manière suffisamment désirable pour que les décideurs politiques et économiques décident d'investir dessus, contre l'existence du paradigme, les scientifiques appelleraient ça plutôt un paradigme, du paradigme dominant qui est celui des énergies fossiles, etc. Et on voit bien comment l'utopie dominante se défend et se défendra jusqu'à la mort contre l'irruption, le dérangement, la perturbation en provenance des utopies alternatives. Et donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas s'il est encore utile, l'utopie d'aller sur la Lune est encore utile, mais vous voyez bien qu'on est en train de la remplacer par une autre utopie, hein, c'est Mars. Et là, on voit qu'il y a des frémissements. Je n'ai pas vu de tels frémissements, objectivement, hein, concernant les énergies renouvelables. Je ne sens pas, parmi les start-up, parmi les sociétés de capital risque, les grandes banques d'investissement, un grand engouement pour les énergies renouvelables. Ça serait un bon signe, d'accord ?
Peut-être parce que c'est trop concret et actuel, alors que Marx, c'est vraiment dans le domaine de l'utopie.
Oui.
Ça mobilise peut-être plus...
Les imaginaires, oui.
Les imaginaires.
Il y a un jeu très pervers, hein, entre imaginaire et réalité. J'ai appelé ça dans mon ouvrage totalement inhumaine une pompe. Hein. En fait, la société, du point de vue scientifique et technologique et industriel et financier bien sûr, fonctionne au moyen d'une pompe qui est destinée à dériver vers un certain nombre d'objectifs de recherche et de développement, des ressources qui, si on laissait faire les lois du marché, ne seraient pas accessibles à ces recherches et à ces développements. Et ça se fait à l'aide de récits, qu'on appelle des utopies, et ces récits circulent dans les communautés d'investisseurs, dans les commissions européennes, hein, qui décident de l'allocation des ressources en matière de recherche.
Si l'utopie recherche le bonheur pour le plus grand nombre, une utopie martienne, que je qualifierais de martienne, me semble moi plutôt une utopie d'échappatoire, c'est-à-dire quitter cette terre que l'on s'est vouée à la destruction. Alors qu'on peut facilement imaginer que tous ne pourront quitter cette terre, et que ce sera forcément réservé, on peut facilement le penser, à une élite.
Oui.
Comment sera choisie cette élite ? Par qui ? Est-ce que c'est cette élite qui se forgera sa propre utopie pour quitter l'utopie dominante et aller à ce moment-là en recréer une Horat.
Oui. Je vous remercie d'avoir fait cette remarque parce que ça montre bien ce jeu pervers des utopies. Hein. Les utopies sont les utopies profitent à ceux qui les mettent en circulation. D'accord. L'utopie martienne, si on la regarde de près, c'est une utopie qui mène au malthusianisme. Vous venez très bien de le souligner, c'est-à-dire que tout le monde n'ira pas sur Mars. Hein. De même que l'utopie de une autre utopie qui commence à drainer vers la recherche des capitaux en quantité très très importante et qui va, dans les années qui viennent, certainement gonfler, c'est l'utopie de l'immortalité.
Transhumanisme.
Hein? Exactement. Si on y réfléchit deux minutes, j'ai entendu récemment, toi aussi j'imagine, un scientifique, enfin disons plutôt un gourou américain qui disait que 1000 ans d'espérance de vie était à portée de la science. D'accord ? À condition bien sûr que les pépettes arrivent. D'accord ? Bon. Réfléchissez simplement 10 secondes à combien il y aurait, vous pouvez le demander à vos gamins qui sont en CM2, combien il y aurait d'humains sur Terre si les 5 milliards d'humains actuels avaient une espérance de vie de 1000 ans. C'est totalement impensable. Donc, dès qu'on y réfléchit 10 secondes, on voit bien qu'il y a là derrière exactement ce que vous venez de décrire, un projet de sécession de l'humanité, de scission de l'humanité, entre un tout petit, une infime minorité qui vivrait 1000 ans et qui se donnerait les moyens de vivre 1000 ans, et l'énorme majorité qui serait quoi ? Qu'est-ce qu'on en ferait ? Je me souviens, vous savez, je l'ai cité aussi dans Totalement Inhumain, un capital risqueur, une espèce de comment dirais-je, Steve Jobs américain qui risquait beaucoup d'argent dans les technologies, disait ceci, il faisait cette opération, il disait « Tout ce dont nous avons besoin peut être produit par 2% des Américains. » Il disait même pas 2% de l'humanité, il disait 2% des Américains. C'est-à-dire probablement 0,2% de l'humanité, d'accord ? Ou peut-être moins même. Qu'est-ce qu'il va faire des 98% restants, 98, et quelques restants ? Qu'est-ce qu'il suggère pour cela ? On voit bien qu'il y a, même s'il n'est pas exprimé, un projet de rupture de l'humanité, de l'unité de l'humanité, de l'humain. Et que, voilà, un petit nombre de privilégiés prennent un grand vaisseau spatial qui les mènerait, les 0,1%, hein, vers les riantes prairies de Mars, abandonnant tout le reste de ces animaux humains à leur précarité et à leur misère. Le modèle social, la vision de l'humanité qu'il y a derrière certaines utopies fait proprement froid dans le dos.
Ceci dit, pour reprendre la balle au bon et jouer les contradicteurs, il y a actuellement à Paris, à l'hôpital de Pompidou, un patient qui vit avec un cœur complètement artificiel. Ça va prolonger sa vie, hein, un petit peu. L'espérance de vie augmente. Enfin, bon, entendons bien, dans certaines régions des États-Unis, elle baisse. Et en France, depuis 2007, l'espérance de vie sans incapacité régresse. Hein. Il faut aussi le savoir. C'est parce qu'il y a l'utopie du progrès éternel et croissant de façon monotone. Quand on y regarde de plus près, ouais, enfin bon, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça. Mais bon, passons sur ça. Ça reste... faut-il arrêter, dans ce cas-là, les recherches en médecine sur... vieillissement humain, par exemple. Ou faut-il déjà, aujourd'hui, se fixer une limite en disant, bon, écoutez, 1000 ans, non, c'est vraiment pas possible, les calculs montrent qu'on voit la catastrophe. En plus, dans quel état ils seront, c'est toujours 999 ans, il va falloir, hein, déjà, quand on en voit à 9 ans. Donc, est-ce qu'on fixe un an, un âge, 120 ans ? Et ça va poser, si on décide d'abandonner cette utopie-là, il va falloir qu'on fasse un choix sur sur l'existant actuellement et ce qu'on peut bien faire. Voilà, voilà. Mmh. Donc, ça ne va pas être si simple que ça. J'ai peur que l'idéologie dominante, l'idéologie aveuglante, l'utopie tellement aveuglante qu'elle ne permet plus de voir les autres, incite quand même à une continuité totale et ininterrompue des recherches pour prolonger la vie humaine. Hein. D'autant que, toujours dans ce même point de vue, c'est rentable. Il y a un terme là qui est sorti depuis quelques années, la silver economy, hein, d'accord, qui montre que écoutez, les personnes âgées sont une source de profit gigantesque. Hein. Donc, à la limite, plus ils se dégraderont pendant longtemps, si vous me suivez mon raisonnement, mieux ça sera pour l'économie, enfin pour certaines branches, enfin c'est loin de l'économie. Hein? Actuellement, regardez ce qui se passe en Corrèze. En Corrèze, il y a au moins 2000 appartements équipés, c'est une espèce de télémédecine, tout est surveillé. C'est un petit peu 1984 d'Orwell, enfin on est surveillé, mais regardez, c'est pour votre bien ici, en plus ils sont d'accord. Hein? Donc ils sont tranquilles la nuit, s'ils se lèvent, il y a des chemins de lumière qui s'allument, il n'y a plus d'endroits où on peut se prendre des pieds dans le tapis. Hein? Il y a des aides, on teste même leur réactivité mentale, etc. À la moindre alerte, on envoie quelqu'un, voilà, mon père, ça va, hein, qu'est-ce qui se passe là? Vous n'êtes allé que deux fois sur Internet aujourd'hui, deux réponses à Facebook, trois tweets, pas normal ça, il va falloir se réveiller. Hein. C'est ça, je sais vraiment ça. C'est vraiment ça. Hein. J'ai travaillé au conseil régional là, sur ce projet-là, appliqué dans notre région. Ça va démarrer. Tout le monde est d'accord pour ça. Donc, on va pouvoir. L'idéal serait, l'idéal, entre guillemets, hein, entendons-nous bien, serait d'avoir des humains qui se dégradent de plus en plus.
Biodégradables,
mais très longtemps. Et là, avec toute la bonne conscience qu'on voudrait dire, nous venons en aide à ces pauvres gens. Bah, l'abonnement, c'est quand même 30 euros. Ah, vous voulez l'option téléphone instantané? Ça leur 10 euros de plus. Les abonnements iront ici, dans la région Lorraine ou la grande région, je ne sais pas quoi, à l'écart, prendre pour l'abonnement de base jusqu'à 200 euros par mois. Hein, sont toutes les options. Et l'option, alors là, pression artérielle en continu, canagurie, enfin, ça varie un peu vite, etc. Vous voyez la source de profit qu'il y a. À côté de ça, la prévention, elle, c'est vraiment la parente pauvre. Alors qu'elle est de rentabilité instantanée, immédiate et totale. Mais, depuis 50 ans à peu près, qu'on a les preuves que le tabac est cancérigène, eh bien, c'est toujours pas passé dans la loi. Parce que, bon, c'est un mal de chien, ça arrive. Vous avez vu la campagne pour rendre anonyme les paquets de cigarettes, enfin, tout ça, mais tout le monde rigole d'un truc comme ça. Ben, qui est-ce qui pousse les petits chatouilles et les gens pour qu'ils rient? Ne cherchez pas bien loin, hein. Je peux vous donner leur nom, hein. Philippe Morris, American Tobacco, etc., hein, qui ont une emprise énorme là-dessus. Mais si on cessait de fumer, on entrerait dans le domaine de la prévention. Si on cessait de fumer et de boire de l'alcool, c'est utopique, hein, mais là j'utilise en troisième sens du terme, le nombre de cancers serait divisé par deux dans 10. Imaginez ce que ça représente. Mais c'est une catastrophe économique. Tout le matériel radiologique, les scanners, etc., les spécialistes, etc., se retrouveraient quasiment sans boulot. Hein. Donc ne comptez pas sur eux pour se tirer les balles dans le pied en faisant la prévention. La prévention n'est pas rentable pour certains segments d'économie, on ne la fera pas. On ne la fera pas. En plus, si on en fait un peu, c'est de l'argent qui est économisé, donc on ne le voit pas. Alors que dans la silver economy, cet argent se compte immédiatement parce qu'il se matérialise en nombre d'entreprises créées, nombre d'emplois créés, tant de machines disposées, etc. Hein? C'est ça l'idéologie aveuglante. L'idéologie qui est tellement aveuglante qu'elle écrase, elle stérilise son environnement. Il ne peut pas en pousser d'autre à côté. Ou alors c'est un sacré boulot. C'est peut-être pour ça qu'il faut des groupes de pression, des groupes de réflexion, qui essaient de réfléchir orthogonalement à la perpendiculaire des courants dominants. Hein, et peut-être qu'ici, on est dans un cadre un petit peu comme celui-ci, il suffit de regarder le XXe siècle, hein, pour dire que c'est possible, en tout cas. Mais ça sera difficile, d'autant que les moyens mis en œuvre au niveau technique de communication, marketing, publicité, etc., de l'idéologie dominante sont de plus en plus fins et efficaces.
Alors, lanceur d'alarme ou consommateur de ce système proposé, avez-vous encore donc assez de sens de l'utopie pour réagir à ces propos donc, de notre conférencier? La parole vous est donnée.
On nous a donné des exemples quand même totalement différents. Parce que vous parliez sur Mars, on arrive sur les prairies verdoyantes de Mars. Bon, ceux qui vont arriver là, ils vont manger quoi sur Mars? Qui c'est qui va cultiver les prairies verdoyantes, hein? Alors ça, c'est quand même, c'est même pas de l'utopie, ça, c'est...
Non,
alors que par contre, là, lorsque vous nous parlez effectivement des groupes de pression économique, etc., qui eux dirigent pour leurs propres intérêts, c'est totalement différent hein, comme exemple. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est même pas de l'utopie, c'est une réalité, ça existe comme ça. C'est comme ça. C'est pas utopique, ça. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça.
Mais Mars est stérile, très chaude, etc., mais il faudra la terraformer, vous imaginez, un peu le segment économique qui va se développer. Hein.
Une autre intervention. Alors j'avais noté cette phrase de Bernard Werber qui disait que les utopistes n'ont raisonné qu'à court terme parce qu'ils voulaient à tout prix voir de leur vivant le fruit de leur travail. Est-ce que cette phrase peut s'appliquer aux scientifiques?
La réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple du tout. Hein. Bah oui, on a toujours envie que ça s'applique et que ça débouche sur quelque chose de concret. Oui. Bah, le problème, c'est que c'est rarement le cas. Quoi. Hein.
Je crois que par nécessité. Aussi bien les scientifiques, les chercheurs que les hommes d'affaires, les entrepreneurs s'attellent à des objectifs à horizon humain et même à horizon parfois beaucoup plus court qu'une carrière d'homme. Malheureusement, il faut le dire, un scientifique pour se maintenir dans la course doit publier, doit avoir des résultats. Il ne peut pas se permettre de se lancer dans des recherches.
Là, on est presque.
Et dont les résultats sont à 20 ou. Hypothétiques sont à 20 ou 30 ans.
Hein. On est presque à la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée. On va bientôt en parler si ça continue, si on part sur cette voie-là. C'est qu'une question de temps. Et là, avant de rigoler sur les savants fous, etc., il y a intérêt peut-être à tourner cette fois sa langue dans sa bouche, hein, parce qu'un grand nombre de gens qui rigolent en voyant Einstein, la relativité, etc., ce qui va aller un petit peu plus loin, la petite correction qu'on introduit au dénominateur, là, hein, etc., ouais, mais s'il n'y avait pas ça, la précision d'un GPS aujourd'hui, ce serait 10 km. Hein. Donc ces gens-là même que ça fait rigoler en fait utilisent des applications les progrès qu'on va probablement faire en médecine personnalisée basée sur les caractéristiques génétiques mais vraiment très 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 personnelles ça repose le fil est ininterrompu jusqu'à Gregor Mendel à la fin du 19e siècle dans son monastère de Brno, où il cultivait ses petits pois. Si le fil avait été coupé, on n'y serait pas là aujourd'hui. Hein, il aurait fallu attendre que quelqu'un renoue en faisant un petit détour. Parce que quand une idée est dans l'air, souvent, elle finit par passer. Hein. Non, il y a plein de... Bien sûr qu'on aimerait bien avoir un résultat tout de suite. Il y a les recherches, je dirais, mais directement appliquées. Moi, si un industriel me demande de faire de la toxicologie sur son produit en me disant « j'aimerais bien que ce ne soit pas trop toxique », six mois après, on a la réponse. Quoi, hein. Mais ça, c'est un tout petit résultat qui apporte un tout petit grain de sable dans l'édifice géant. Hein. Et quelquefois, il y a des découvertes, enfin, il faut peut-être enlever aussi ce mythe de la grande découverte, Eureka, hein, etc., des choses qui ont été observées, mesurées à un moment donné, qui dorment pendant très longtemps. Hein. Un jour, quelqu'un C'était disparate, d'un seul coup, c'est des champs complètement différents, et d'un seul coup, quelqu'un trouve que c'est vraiment cohérent. Et, prenez par exemple, Omar Khayyam, vous savez, le poète persan, qui vivait dans l'an 1000 à peu près, là-bas du côté de l'Iran actuel. Pas oublié un truc, hein. C'est quand même lui qui a trouvé une méthode de résolution des équations du troisième degré qui est toujours enseignée aujourd'hui. Hein. Bon. Hein. Et c'est à lui qu'on a demandé de refaire le calendrier à l'époque. Pourquoi ? Parce que les conceptions du monde, on est en train de parler de recherche et de délai d'application, hein. À cette époque-là, voyez un monde assez cyclique. Or, les agriculteurs ont besoin de repères dans le temps. Vous savez, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, etc. Ça fonctionnait beaucoup sur des choses comme ça. Mais avec les petits décalages dus aux imperfections, on en était arrivé à semer le blé à 6 mois trop tard, quoi, ou trop tôt. Et ça, plus rien ne marchait. Donc, il a fallu refaire le calendrier. Alors, à quoi ça dit bien ? À quoi sert le passage d'une vision du soleil avec la Terre qui tourne selon un cercle, et la vision qui est venue juste après, du soleil au milieu, avec la Terre qui tourne autour, non plus par un cercle, mais une ellipse, qui est quasiment un cercle, il faut quand même reconnaître que la différence n'est pas bien grande. Hein? Et bien, ça change tout. Ça change tout. Hein? Naturellement, pas instantanément. On peut passer sa vie en ignorant complètement que la Terre tourne autour du soleil, selon une ellipse dont le soleil est l'un des foyers, mais qui ressemble tellement à un cercle. Hein? Ça ne gêne pas dans la vie de tous les jours, apparemment. N'empêche que si on n'en tient pas compte, on a vite des ennuis. Hein. Oui, et notre précision est telle, j'attire votre attention là-dessus, notre précision est telle actuellement, pour prendre quelque chose d'actualité, qu'on a été capable, il y a plus de 10 ans, de lancer une sonde qui a suivi une trajectoire invraisemblablement complexe, qui avait été calculée à l'avance. Hein. Pendant qu'une comète se promenait à l'autre bout du système solaire, hein, que la sonde a réussi à se placer juste à côté et libérer un automate qui est allé se coller sur la comète. Je ne sais pas si vous imaginez la complexité du calcul et de l'anticipation d'un truc comme ça. Là, on est en recherche appliquée, mais je suis certain que pour cette recherche appliquée, il y a fallu des ordinateurs, même des trucs qui calculaient vite et bien. Hein, autrement dit, depuis les gens qui, à la belle téléphone, dans les années, je crois, 40 certainement, jouaient avec des petits cristaux de silicium, alors qu'il aurait été logique à l'époque de fabriquer des diodes, des triodes, des pentodes, des je sais pas quoi, odes, hein, de plus en plus grosses, ces gens-là jouaient avec des petits cristaux de silicium, ça servait à rien. À part que ça a donné le transistor, qui a donné le circuit intégré, qui a donné le circuit intégré à haute échelle, etc., etc., et qui permet maintenant d'avoir un truc qui a une puissance de calcul que n'avaient pas les ordinateurs il y a 40 ans, quoi. Voilà, une digression sur recherche appliquée, recherche fondamentale. C'est très difficile de savoir ce qui en gros, rien n'est jamais inutile. Voilà. Autant voir les choses comme ça.
Une question, une remarque,
Pierre ? Je trouve que vous peignez une image du futur qui est assez inquiétante et malheureusement réaliste aussi. Et du coup, j'aurais voulu savoir si vous auriez une petite touche d'optimiste à nous apporter. Qu'est-ce qui pourrait nous faire apparaître une nouvelle utopie ou qu'est-ce qui pourrait changer un peu la donne ?
Mon utopie à moi se résume en un verbe et qui est le verbe « reprendre ». Nous avons laissé filer un tas de pouvoirs qui nous appartenaient au cours de l'histoire, hein, un tas de pouvoirs qui nous appartenaient et qui ont permis à l'utopie dominante actuelle d'asseoir sa souveraineté et d'interdire à toute autre utopie de non seulement prospérer, mais simplement germer. Et donc, la question maintenant est que les citoyens reprennent ces pouvoirs qu'ils ont délégués, abandonnés, négligés au cours des, je dirais, presque des siècles, pas seulement des dernières années, mais particulièrement ces dernières années. Et pour moi, le principal pouvoir qu'il faudrait que les citoyens reprennent, c'est celui de... de leur travail. C'est-à-dire, pas seulement du salaire de leur travail, mais aussi de ce que leur travail permet de créer comme richesse. Hein, pas seulement ce qu'on leur paye pour survivre pendant qu'ils travaillent, mais également de participer Et c'est le, si vous voulez, l'agriculteur primitif semait, récoltait, se nourrissait sur sa récolte, et s'il y avait un surcroît, c'était pour lui. C'était pas pour le banquier, c'était pas pour l'actionnaire, c'était pas pour une puissance quelconque qui captait, c'était pas pour l'État qui percevait un impôt dessus, un impôt sur le revenu, c'était pour lui. Et ce droit, tout à fait primitif, hein, c'est celui sur lequel tous les droits de l'homme reposent, ce droit, nous l'avons abdiqué au cours de l'histoire. Je ne sais pas comment ça s'est passé, hein. Je ne crois pas du tout à la thèse complotiste qui voudrait qu'il y ait une puissance maléfique quelconque qui s'appellerait, le capitaliste, les gnomes de Francfort, les juifs, les francs-maçons, qui aient décidé un jour de s'emparer de ce droit qui est un droit fondamental de l'homme, qui est simplement de pouvoir récolter ce qu'il a semé et faire ce qu'il veut avec ce qu'il a récolté. D'accord. Donc je ne crois pas à ça. Je crois que c'est un abandon qui s'est fait petit à petit au fil de l'histoire. Mais le résultat actuel, c'est que nous avons une immense majorité de gens, de laboureurs, et une infime minorité de gens qui travaillent et qui vivent sur le labeur des autres. D'accord ? Une infime minorité. Et ça, c'est une série d'abandons. Et c'est pourquoi j'appelle ça reprendre. Il faut que nous reprenions ce droit. D'accord ? Et donc ça, c'est mon utopie à moi. Vous me demandez si je me contente de critiquer les choses, d'essayer de diagnostiquer. Non, j'essaie de proposer une contre-utopie. Mais bon, je peux aussi vous dire que c'est très difficile à faire circuler, d'où mon discours au préalable qui a pu vous paraître très pessimiste.
Il y a une note
d'optimisme. Le premier pas pour résoudre un problème, c'est de prendre conscience qu'il existe un problème et de sa nature. Ça me semble. Pour reprendre ce que disait Jean-Michel juste avant, c'est un petit peu comme une chaîne écologique. Sur Terre, ce sont les plantes vertes qui font le premier pas, les plantes à chlorophylle. C'est elles qui créent les premières protéines à partir de l'azote du sol, du gaz carbonique qui est dans l'air et de l'énergie solaire. Et après, tout le monde vit sur les plantes. Nous vivons sur les plantes. Alors, les herbivores ont toutes les plantes, les carnivores mangent les herbivores, les hyperprédateurs mangent les carnivores, etc., etc., etc. Il ne faut surtout pas être en bas de la chaîne. Or, c'est là que se trouve le producteur primaire. C'est là le problème. Hein. Même maintenant, on pourrait même dire que dans nos pays, il y a même encore en dessous. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que quand on travaille le métal à monter des voitures sur une chaîne automobile, peut-être se demander d'où vient le métal, et vous avez peut-être vu ce reportage la semaine dernière sur cette espèce de port, enfin, je ne sais pas comment il faut appeler ça, au Bangladesh, où tout le monde travaille à dépecer les navires en acier dans des conditions épouvantables. Et c'est ce métal-là qui est recyclé après, sans aucune protection ni physique, ni sociale, naturellement, pour rien, les enfants travaillent, on vit. Quand vous mettez le contact de votre voiture, vous vivez sur la mort de quelques enfants, probablement. De même, quand on se sert de ces téléphones portables, etc., nous entretenons des guerres en Afrique pour les terres rares, ce qu'on appelle des terres rares, qui servent à la construction des écrans tactiles. Il y avait un article qui avait dit, quand je tape sur mon iPhone, j'ai du sang plein les mains, c'est réellement ça. Hein, bon. Donc, il y a même en dessous de ce niveau-là, dans d'autres régions du monde, on a délocalisé simplement, on ne veut pas le savoir. Hein. Et puis, il y a la théorie de l'homme kilomètre. Hein. C'est-à-dire qu'on prend bien conscience, on est d'accord qu'ils souffrent. Hein. Mais ils sont loin, ils ne souffrent pas tant que nous quand on a un peu de problème. Hein. Vous savez ça, c'est un point de vue très, 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 très pernicieux. Hein. Donc, d'abord, savoir détecter le problème, le circonscrire exactement. Et ça, c'est une démarche scientifique. Hein. On passe notre temps à ça, hein, dans les labos, c'est-à-dire du bon sens. Mais pour pourquoi c'est comme ça. Il faut affiner. Il y a trop de trucs en jeu là-dedans. Il faut purifier, il faut, etc., etc. Hein. Et ça, à mon avis, aujourd'hui, plus personne n'est capable de le faire seul. Ça, ça ne peut être qu'une œuvre collective. Hein. Alors, je ne veux pas tomber non plus dans les travers qu'il y a eu, parce que moi, j'ai la mémoire assez longue. Et je me souviens de, dans les années 67-68, des délires complets dans certains journaux où on racontait qu'en Union soviétique, un chirurgien devait opérer un patient d'une tumeur. Il ne savait pas comment faire. On a appelé tous les ouvriers du kolkhoz. Ils se sont mis autour du patient. Ils ont discuté, bien selon les techniques prolétariennes de l'époque, et ils ont trouvé la solution. Et le patient a dit, mon Dieu, je pense qu'on a pu croire à des trucs comme ça. Enfin, que certains ont pu croire à des trucs comme ça, je suis un peu effrayé. Donc, mais quand même, le collectif a dit, bon, aucun cerveau n'est capable d'être universel. Hein. Et on a actuellement des moyens extraordinaires pour communiquer. On a des moyens, vous savez, les francs-maçons se réunissent encore dans des locaux comme ça, mais en fait, ils pourraient quand même élargir. C'est tout à fait possible. Hein. Mais bon, ça marche encore pour l'instant, ça marche bien. Mais prendre conscience du problème par une réflexion collective, et puis après, oser. Kant avait dit une phrase extrêmement importante. Dans un petit bouquin, que vous pouvez lire, alors là, ça vaut 2 euros dans les collections, toutes petites collections, vous savez, là, qui ont trouvé le moyen de segmenter à mort et donc d'augmenter le profit, comme ça, en vendant très cher la ligne, finalement. Mais c'est pas grave, pour une fois, ça vaut pas cher. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le devenir ?» C'est un petit texte que vous trouvez chez Folio, ça fait 40 pages. Et dedans, il y a une expression qui dit, il conseille, il ordonne aux gens, ose comprendre. Point d'exclamation. Ose te servir de ton entendement. Parce que la plupart du temps, ce sont les gens eux-mêmes qui se mettent des limites. Pourquoi ils se les mettent? Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient limités. Hein. On a tout fait pour qu'ils aient l'impression de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas pouvoir faire cela, etc. Et donc, ils confient leur destin à d'autres. Des enseignants, des prêtres, des directeurs de conscience. Prenez bien conscience de cette expression. Un directeur de conscience. Ça, c'est quelque chose, hein, bon, faut le faire, hein, c'est le métier, bon. Et donc, quand on disait, bon sang, allez, arrêtez, je vais balancer tout ça, servez-vous de votre cerveau, vous en avez un, il marche bien, généralement, donc, osez-vous en servir.
Quelque chose qui pourrait être peut-être à la fois une conclusion ou une espèce de questionnement. J'ai suivi toutes les conférences de la journée et si je voulais en faire une forme de synthèse rapide, on a vu dans des conférences ce matin, je pense en particulier à celle de Claude Vautrin, nous avons vu surgir des utopies dans le lit de la dystopie. Nous avons vu aussi parallèlement des utopies se transformer en dystopies, en particulier les utopies dominantes. Donc est-ce que le message d'espoir, ce n'est pas que d'attendre que l'utopie dominante, et là on est dans, quelque part dans la reprise, est-ce que l'utopie dominante, dans la mesure où elle se transforme en dystopie, ne peut pas engendrer une nouvelle utopie, peut-être meilleure, peut-être pire, on ne sait pas. Et peut-être la question à se poser, c'est saisir l'instant, être capable à ce moment-là d'être au bon moment, au bon endroit pour aller plus loin et recréer quelque chose du lit de la dystopie.
Alors pourquoi attendre?
Mais ça, c'est la dialectique utopie-dystopie. Une utopie, c'est toujours comme ça. Dans un premier temps, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on essaie de réparer. Hein. Et on essaie de réparer, ça sert de signal aux autres qui éviteront peut-être. Non, bien dans l'enfer de la dystopie, si certains. Après, quand on regarde les romans, après tout, vous savez, les romans utopiques ou dystopiques, moi je les considère assez souvent quand ils sont bien faits, hein, je ne crois pas, c'est des petits trucs qui ont été écrits en une semaine en réponse à une question, mais les gros, les bien cohérents, c'est des simulations. C'est des simulations. Hein. Quand ça marche bien, ça fait peur, quoi. Si vous lisez 1984 d'Orwell, bien attentivement, hein, c'est que pour trouver la phase de système, c'est toujours... hein, et c'est même poussé, la perversité est même poussée. Alors, bien, si on ne décrivait que le fonctionnement du monde de 1984, ça serait très vite, on s'embêterait. Mais dans tout roman, il y a le moteur du roman, c'est le grain de sable qui vient se mettre dans la machine. Là, c'est le héros. Et vous suivez, vous faites très empathique pour le héros, etc. Jusqu'au moment, enfin, je sais pas, tant pis, je révèle le truc, hein, tant pis pour ceux qui l'ont pas lu. Hein. Bon, jusqu'au moment où on découvre qu'en fait, le héros, il a été manipulé depuis le début par le système. Et ça me rappelle certains chefs d'État qui provoquent une petite révolte. Vous savez, un bon tyran, et puis bon, il voudrait bien être tranquille encore pour quelques années. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? En sous-main, il fomente une petite révolte. Immédiatement, il y a des leaders qui se détachent, etc. C'est eux qui sont dangereux. C'est eux qui sont entre les premiers et on exécute. Après, on est tranché. Le système, il est là. Le problème, hein, c'est que c'est cette espèce de spirale où un système semble engendrer ses anticorps, mais en réalité, pour moi, contrôle du tout. Hein.
Une autre intervention. Il faudra attendre un an. Si vous ne la faites pas aujourd'hui.
Je ne même pas compris si vous êtes pour ou contre la recherche scientifique. Parce que dans la recherche, on sait qu'il y en a qui recherchent et ils trouvent une chose. Ça arrive aussi, heureusement d'ailleurs, ça va être dans le cadre.
Bah, moi j'en ai bien vécu pendant 40 ans. Voilà. C'est plutôt court. S'il n'y avait pas eu de recherche scientifique sur les vaccins, dans les années 40, etc., vous n'auriez peut-être pas de conférencier ici, ni là-bas, ni là. Hein. Pas. Il y aurait, la plupart des chaises seraient peut-être vides là aujourd'hui. Hein. Moi, je suis pour, bien sûr.
Oui.
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 Vous, en parlant tout à l'heure de votre utopie que vous dites optimiste, vous avez dit qu'il fallait reprendre le pouvoir. Et revenir au producteur qui bénéficie directement de ce qu'il a produit. Et en vous écoutant, je pensais à un conférencier qui a énormément de succès depuis quelques années, et je ne comprends pas ce phénomène, c'est Pierre Rabhi. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Rabhi par rapport à ses utopies? Sachant que quand on veut un peu, comme l'a dit l'autre conférencier, déjà être optimiste, c'est s'interroger sur de nouvelles choses, sur les nouvelles utopies, eh bien il y a des gens qui s'interrogent aujourd'hui, qui disent que Pierre Rabhi, c'était un excellent gourou, mais que celui qui dit que Rabhi est un gourou, parfois se fait très mal voir de gens qui y croient aujourd'hui. Parce qu'ils ont tendance à dire qu'ils reprennent le pouvoir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, je vous remercie de donner votre avis par rapport à ce qu'on peut appeler un phénomène.
Pour Pierre Rabhi, bon, on est l'apôtre de la décroissance et de la sobriété, je crois que c'était dans ce bouquin, la sobriété heureuse ou un truc comme ça, hein, c'est ça. Bon, bien. Il a dû gagner pas mal de fric en droit d'auteur. Hein. Je ne sais pas s'il est aussi sobre qu'il le fait, je ne sais pas. Je lui fais un mauvais procès, attention, hein, peut-être. Hein. Oui, bon, ben, oui. Mais il fait vivre un segment économique intéressant, quoi, hein, dans l'émission. C'est là que le jeu devient pervers. Je vais vous prendre un autre exemple. Actuellement, se développe ce qu'on appelle le RSE dans les entreprises. Ce sont les rapports... vous savez, une entreprise, avant, elle publiait son bilan financier. Maintenant, elle est obligée d'en présenter un autre en plus, ce rapport RSE. C'est son investissement dans le domaine sociétal et dans le domaine environnemental. D'accord ? Donc, elles mettent en avant, en exergue tout. J'ai assisté à une réunion il y a 15 jours. C'est un ancien ICN, là-dessus. Hein. Mais il y a plein d'entreprises qui ont compris le truc. Et on tombe dans ce qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire, je me donne une façade quasiment écologique, d'accord ? Mais ce n'est qu'une façade. Bien. Alors là, on pourrait dire, OK. Alors, quand on voit que Monsanto produit un rapport RSE, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Là, on est dans le paradoxe total, Monsanto devient d'un seul coup protecteur de l'environnement, mince alors bon, je ne m'attendais pas, hein. Philippe Maurice produit un rapport RSE, etc. Là on est dans le greenwashing, hein, c'est-à-dire le recyclage vert en quelque sorte, je me donne une façade, etc., je continue à faire ce que je veux derrière. Ok, ça peut paraître pertinent, mais elles y sont bien obligées maintenant, les entreprises, de produire ça. La Poste en produit un, la SNCF en produit un, etc. Alors on a une discussion assez alignée parce que la Poste, le représentant de la Poste disait « Ah ben nous, moi, là, je mets en évidence dans mon rapport RSE qu'on n'utilise plus que des voitures électriques. » Je dis « Oui, mais pourquoi ?»« Bah, ça pollue moins. »« Ben oui, mais l'électricité, le prêt nous bat une prise. »« Oui, d'accord, mais le courant, il vient d'où ?» Ah ouais, bon, il a des centrales thermiques, etc. Ah bon, il pollue moins en ville là où il roule. Mais maintenant, si on prend une vision en ville. Ceci dit, tout le monde va être obligé de s'y mettre. Et ne vous inquiétez pas, d'ici 5-6 ans, même la plus petite entreprise, à côté de son bilan, sera obligée de publier un bilan RSE. Pourquoi ? Parce que l'opinion, enfin c'est mon interprétation, l'opinion a évolué. Elles se sentent obligées de le faire. Alors il y a encore une grande part de greenwashing là-dedans, on est d'accord. Hein. Mais à mon avis, si ça continue dans ce sens-là, eh ben c'est quand même mieux. Parce qu'il y aura, on peut espérer qu'il y aura de moins en moins de greenwashing dans ces rapports et qu'il y aura de plus en plus de vraie protection de l'environnement. Parce que quand tout le monde aura rigolé pendant des heures en disant Monsanto a produit un rapport RSE, on va le dire en détail. Tiens, je vois d'ici le canard enchaîné se mettre là-dessus, par exemple, hein, qui nous distillait ça étape par étape, de semaine en semaine. Ils seront eux aussi, les gens prendront conscience éventuellement du problème du glyphosate, hein, le Roundup de chez Monsanto, des Roundup Ready Plants, hein, c'est-à-dire le mouvement herbicide et la plante modifiée aux gènes qui résiste à l'herbicide, c'est génial comme système. Alors là, oui. Mais il y a eu forcément, je pense, une évolution des mentalités sous certains groupes de pression, peut-être les écologistes, je ne sais pas, une littérature diffuse de type écologique, protection de l'environnement, etc., qui a conduit certaines entreprises dans un but de gagner encore plus de parts de marché, de dire « Ah ah, ça m'a l'air d'être une tendance lourde dans la société, je produis un rapport RSE maintenant, d'accord ?» Voyons ça, les autres se sont dit « Ma main, ça va. Oh, ben, il faut qu'on en fasse un truc. » Oui, et puis la mentalité évolue, peut-être qu'à terme, dans je ne sais pas combien d'années, le groupe de pression initial, qui ça pouvait être. Je repense à des journaux comme La Gueule Ouverte dans les années 68, l'émanation d'Arakiri à l'époque, où on avait les premières. Il y avait, comment il s'appelait celui qui avait un peu le rôle, René Dumont, hein, qui écrivait, n'auront peut-être pas prêché dans le désert à cette époque-là. Quoi. Et bien, c'est une dialectique subtile. Hein. Si cette tendance que je considère personnellement comme bonne réussit à grandir, c'est parce que le système libéral a été pris à son propre piège, là-dedans, grâce à des groupes de pression. Et alors là, on va tomber, mais je crois qu'il ne faut quand même pas le croire. Mais on pourrait tomber dans d'autres discussions du type à quoi servent les extrémistes, hein, quoi, hein. Je ne parle pas de ceux qui mettent des bombes, hein, pas que ça, mais dans les idées.
Dans avançant, il y a des autres qui ont ouvert le débat. Jean-Michel, à vous d'apporter une réponse et peut-être de conclure.
Je me garderai bien d'apporter des réponses et encore moins de conclure. Je pense que des questionnements, je l'espère, ont été produits ce soir. Il faut qu'ils germent librement, aussi librement que possible, sans ce que nous leur placions de tuteurs. Qui dirigent, de directeurs de conscience, qui dirigent leur évolution d'un côté ou d'un autre. Je crois que, justement, par rapport à la pensée unique qu'impose l'utopie dominante, peut-être qu'une des façons de lutter serait de laisser fleurir des milliers d'utopies concurrentes et les laisser se développer et certaines d'entre elles peut-être prospérer. Donc je me garderai bien de conclure. Je ne peux qu'inviter à poursuivre ce genre de réflexion dans tous les cercles possibles et voilà, et peut-être de se réunir pour échanger l'année prochaine sur le même sujet pour voir si on a réussi à prospérer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ne pas essayer d'opposer une nouvelle utopie dominante à l'ancienne.
Et continuer la part à la science quand même.
Voilà. Donc, utopie que j'oserais qualifier de génératrice de liberté, voire d'égalité, avec un travail de tous, en toute fraternité, sans rechercher le profit pour soi-même ni pour une minorité, mais dans un développement commun du bien-être de tous. Pour arriver à cela, eh bien, des hommes et des femmes se réunissent ici, sortis de leur vie quotidienne, entrant donc deux fois par mois dans ce lieu. Ils imaginent un meilleur, ils imaginent d'être eux-mêmes un jour meilleur pour que, eh bien, l'ensemble de l'humanité le devienne. Vous avez donc côtoyé quelque peu pendant ces moments l'espace que fréquentent ces hommes et ces femmes. Ils ont essayé aussi, donc à travers ces cycles de conférences, eh bien, de vous communiquer un petit peu leurs préoccupations et leurs aspirations. Soyez tous remerciés d'avoir participé à ces conférences, les imaginaires maçonniques et donc les ésotériques 2015. Merci à nos deux conférenciers que je vais récompenser, si je puis dire, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais honorer de la remise donc d'un diplôme de membre d'honneur des imaginaires maçonniques et ésotériques. Donc, à Jean-Michel Thuon, est-ce que tu as eu le tien? Donc, Jean-Michel, donc, nom de président des imaginaires maçonniques et ésotériques, ce nous avons eu un grand honneur. Merci à tous. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2016. Nous serons là. Nous espérons qu'une seule chose, eh bien, c'est que la science vous préserve et qu'elle vous permette d'être là pour eh bien, naviguer sur de nouveaux chemins, donc vers une société peut-être meilleure et un nouveau questionnement. Merci à vous. Merci donc à nos conférenciers.